L'Assemblée de Dieu. Première partie, principe du rassemblement chrétien. 1. L'Église selon la pensée de Dieu. Son prix. Nous ne saurions trop nous recueillir, avant toute chose, devant ce que la parole nous dit du prix que l'Église a pour Christ, a pour Dieu. Christ l'appelle mon assemblée, Matthieu 16, verset 18, et cela seul montre la présomption des hommes lorsqu'ils veulent bâtir leur église à eux.
Matthieu 16, verset 18, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle.
Elle est l'église de Christ, il l'a bâtie. Il a des droits sur elle, elle est à lui. Le passage bien connu d'Éphésiens 5, verset 25, nous définit ses droits qui sont ceux de l'amour. Il nous dit à quel prix il l'a acquise. Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Le marchand de la parabole a vendu tout ce qu'il avait pour acheter la perle de grand prix. Mais Christ a payé bien davantage, il a donné sa vie pour l'assemblée. La parole emploie cependant moins l'appellation d'assemblée de Christ que celle d'assemblée de Dieu, et cela rehausserait encore, s'il était possible, la place que lui assignent les pensées et les affections divines, car le chef du Christ, c'est Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 3. Paul recommandait aux anciens d'Éphèse de paître l'assemblée de Dieu, et il ajoute aussitôt laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Acte 20, verset 28.
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit-Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils.
Que chacun de nous pèse de telles expressions. Le sujet de l'Église n'est pas laissé à notre propre appréciation, ce n'est pas un sujet de controverse sans portée. Voilà à quelle valeur l'Église est estimée par Christ, par Dieu, et nous ne mettrions pas tous nos soins à nous enquérir de ce qu'elle est, de la façon dont nous avons à nous conduire à son égard, du rôle et de la place que la parole lui assigne ici-bas, de son espérance, de son avenir. Des hommes la façonneraient à leur gré. Il est grave de mépriser l'assemblée de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 22.
Ou méprisez-vous l'assemblée de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Apocalypse 3, verset 9. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi je t'ai aimé.
Toute légèreté, toute indifférence là-dessus prouverait que nous ne sommes pas intéressés à ce que Dieu aime, à ce que Christ aime. Le sang du Fils de Dieu, le sacrifice de Christ, l'amour de Christ ne nous toucherait-il point? Ou nous contenterions-nous égoïstement de savoir que nous sommes sauvés, sans que ce qui est cher au cœur de notre Sauveur ait de valeur pour nous? Le propos de Dieu à son égard. Ne craignons pas d'élargir un tel sujet. On ne peut avoir une vue juste de tout ce qui se rapporte à l'Église si l'on ne prête pas attention à ce que l'Écriture révèle du dessein de Dieu envers elle pour sa gloire à lui. L'Église est, de toute éternité, destinée à partager la gloire de Christ, cet homme qui est devenu le Fils de Dieu afin de mourir pour nous et qui, ressuscité d'entre les morts et maintenant assise à la droite de Dieu dans le ciel. Bientôt, selon le mystère de sa volonté, Dieu réunira en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre en lui. L'Église sera associée à ce dominateur. Il lui est donné pour être chef sur toutes choses, et pour qu'elle lui soit unie comme son corps même, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Adam n'était pas complet sans Ève. Le glorieux ressuscité ne le serait pas sans l'Église. C'est pour cet avenir qu'elle est formée. Sa place distincte. De là vient la place distincte qui est assignée ici-bas à l'Église. Le croyant n'est pas du monde parce que Christ n'en est pas. Jean 17, verset 14. Elle non plus.
Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Cette mise à part est clairement effectuée, en pratique, dans les Actes au chapitre 2, verset 47.
Et ayant la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés.
Et en Actes 5, verset 14, vis-à-vis de Jérusalem.
Et des croyants d'autant plus nombreux se joignaient au Seigneur, une multitude, tant d'hommes que de femmes.
Puis, en Actes 18, verset 7 et 19, verset 9, à l'égard des Juifs en général.
Actes 18, verset 7, et étant parti de là, il entra dans la maison d'un nommé Juste qui servait Dieu, et dont la maison tenait à la synagogue. Acte 19, verset 9. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient rebelles, disant du mal de la voix devant la multitude, lui, s'étant retiré d'avec eux, sépara les disciples, discourant tous les jours dans l'école de Tyrannus.
Quant à la séparation d'avec les païens, elle allait d'elle-même. Galates 1, verset 4.
Notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père.
1 Corinthiens 12, verset 2.
Vous savez que, quand vous étiez gens des nations, vous étiez entraînés vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés, etc.
On trouve en 1 Corinthiens 10, verset 32, la distinction aussi nette que possible. Ne devenez une cause d'achoppement ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Assemblée de Dieu. Les Juifs étaient le peuple terrestre de Dieu, en voie d'être rejetés. Les Grecs représentaient le reste des hommes. L'Assemblée de Dieu est formée, elle, de ceux qui ne sont plus ni Juifs, ni Grecs, mais un dans le Christ Jésus. Galates 3, verset 28.
Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus.
Sa composition. L'Église est formée en effet de ceux qui possèdent la vie nouvelle en Christ, la vie de Dieu, et de ceux-là seuls. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Ces « nous » sont évidemment, avec l'apôtre, ceux auxquels s'adresse son épître, savoir les sanctifier dans le Christ Jésus, saints appelés. 1 Corinthiens 1, verset 2.
À l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et leur Seigneur est le nôtre.
Ils appartiennent à Christ, il est leur Seigneur et le nôtre. Il les a acquis pour Dieu par son sang, et son esprit habite en eux. Ils sont de Christ. Galates 3, verset 29.
Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse.
Ils sont tous acceptés de Dieu au même titre, comme des enfants. Leur position devant lui est celle même de Christ. Mais comment Dieu accepterait-il quelqu'un en dehors de Christ? Tous les croyants, sans exception, font à jamais partie de l'Église. Leur position à cet égard est aussi ferme que leur salut. Mais quand des non-croyants se réclament de l'Église chrétienne, aucune Église s'appelant chrétienne range parmi ses membres et associe à sa vie des inconvertis notoires, c'est là assurément une responsabilité très grave. Or ce ne sont pas des rites ou des formalités extérieures, comme le baptême, qui sauvent, mais la foi personnelle en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit met son sceau sur cette foi et la manifeste. L'Église est formée de tous les croyants, disons-nous. Aussi pouvons-nous l'envisager dans sa plénitude, comprenant l'ensemble de tous les croyants, depuis l'envoi du Saint-Esprit lors de la Pentecôte jusqu'à la venue du Seigneur. C'est cet ensemble complet que Christ se présentera à lui-même comme l'assemblée glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens 5, verset 27.
Afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable.
Mais jusqu'à ce moment-là, les enseignements que donne la parole concernent l'Église sur la terre, formée de chrétiens vivant leur existence d'ici-bas, mais dont Christ s'occupe. Éphésiens 5, verset 26.
Afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole.
L'Église, ainsi considérée, est évidemment l'ensemble des croyants existant sur la terre au même moment. Ils ne sauraient tous se connaître, mais Dieu, lui, connaît tous ses enfants. Ils sont tous au même degré partie constituante de son assemblée. L'unité de celle-ci vient de ce qu'ils ont tous la même vie, celle d'un Christ ressuscité. Comparaison exprimant cette unité sous divers aspects. Le Nouveau Testament emploie différentes figures pour nous présenter l'Assemblée. Elles traduisent toutes, mais en se plaçant à des points de vue différents, l'unité de tous les nés de nouveau. Premièrement, l'épouse, une avec l'époux dont elle procède comme Ève d'Adam, os de ses os et chair de sa chair, et l'objet de sa tendre affection. Nulle relation n'est plus intime ni plus douce. Le couple terrestre n'en offre qu'une pâle image. On est mari et femme sur la terre seulement. Mais l'Église sera l'épouse éternelle de Christ dans le monde nouveau, comme le montrent avec tant de relief les derniers chapitres de l'Apocalypse. Les soins actuels de Christ pour l'Assemblée sont ceux de l'époux qui attend le moment de venir chercher son épouse avec une sainte affection à laquelle il veut qu'elle réponde. Que celui qui entend dise « Viens ». Deuxièmement, mais les maris sont exhortés à aimer leurs femmes parce qu'elles sont leur propre corps, comme l'Église est le corps de Christ. Cette expression, employée de façon si saisissante au chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens, verset 23, puis au chapitre 4, verset 12, et au chapitre 5, l'est aussi en 1 Corinthiens 12, verset 12 et 27, et, quoique moins significativement, en Romains 12, verset 5.
Éphésiens 1, verset 23, l'Assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 4, verset 12, en vue de la perfection des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 12, car de même que le corps est un, et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Et 1 Corinthiens 12, verset 27, or vous êtes le corps de Christ, et ses membres chacun en particulier. Romains 12, verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre.
On sait que ce terme est particulier à l'enseignement de Paul. Cet apôtre avait été spécialement mis à part pour mettre en lumière ce point tant il est important. Rien, en effet, ne peut approcher la force d'un tel mot, le corps de Christ. Il y a là plus qu'une relation, si étroite soit-elle, mais bien une unité vitale, assurée par un même esprit qui lie tête et corps. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Ephésiens 4, verset 4. Cela suppose la vie. Ceux qui font partie du corps ont la vie de Dieu, la vie de Jésus dans les siens, et ils ont pour espérance le moment où ce qui est encore mortel en eux sera absorbé par la vie. Déjà, lorsque Christ glorifié saisit Paul, il met cette unité en évidence. « Je suis Jésus que tu persécutes en persécutant les miens. » Vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. 1 Corinthiens 12, verset 27. Il n'est pas parlé des membres de l'assemblée, encore moins de ceux d'une assemblée, mais du corps de Christ. Ce mystère est grand. Troisièmement, le même esprit y assure et entretient l'unité vitale de Christ glorifié et de son corps encore sur la terre, en chacun de ses membres, comme dans l'ensemble, habite ainsi sur la terre. Chaque croyant est le temple du Saint-Esprit qui est en lui et qu'il a de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été achetés à prix.
Et l'Église entière est le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Elle est l'habitation de Dieu par l'Esprit. Ephésiens 2, verset 22.
En qui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit.
Elle est la maison de Dieu. 1 Timothée 3, verset 15.
Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité.
Bâti sur un fondement solide, le roc de la personne glorieuse confessée par Pierre comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, est bâti par lui-même, elle est formée de pierres vivantes, à commencer par Pierre, mais lui avec tous les croyants. 1 Pierre 2, verset 5.
Vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Pas plus lorsqu'il est question de la maison de Dieu que lorsqu'il est question du corps de Christ, la réalité de la vie divine chez ceux qui font partie de l'assemblée de Dieu ne peut être mise en doute ni oubliée. L'édifice parle de quelque chose de stable, et la solidité de l'Église est telle que les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle, puisque c'est lui qui bâtit, rien n'est à craindre. Mais c'est la maison de Dieu, le temple saint dans le Seigneur. Tout doit donc y répondre au caractère divin. Le nom de Dieu y est connu, honoré, loué, et Dieu veille à ce que la façon de vivre de ceux qui sont là soit en rapport avec la sainteté de ce nom. C'est le lieu du service divin, une sainte sacrificature. Quatrièmement, épouse, corps, maison, l'Église est tout cela dès l'instant où elle existe. Mais, de même que le chrétien pris individuellement et dès ici-bas tout à la fois accompli en Christ, donc propre pour la gloire, et formé progressivement au cours de sa carrière en vue de sa manifestation au jour de Christ, de même l'Église, ensemble des croyants, est déjà vue en Christ dans sa perfection, et en même temps formée peu à peu par tout le travail de l'Esprit-Saint durant le temps de la grâce, en vue du ciel. Christ, purifie l'assemblée par le lavage d'eau par la parole. Le corps de Christ croît par les grâces spirituelles qui viennent du chef et, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement produit, selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, son accroissement pour l'édification de lui-même en amour, Éphésiens 4. Et enfin l'édifice, bien ajusté ensemble, croît pour être un temple saint dans le Seigneur, Éphésiens 2, verset 21.
En qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croît pour être un temple saint dans le Seigneur.
L'achèvement sera vu dans le ciel, mais il est là, pour ainsi dire, en puissance. Ainsi, un bon ouvrier voit déjà dans sa pensée son travail tel qu'il demeurera, et voit en même temps tout ce qui sera nécessaire pour l'amener à ce terme. Quand l'Église prendra effectivement place dans les lieux célestes avec Christ, chacun de ceux qui la composent ayant revêtu un corps semblable à Christ, elle apparaîtra comme son épouse unie à lui, comme son corps, plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, verset 23.
L'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Et l'édifice, alors, l'habitation de Dieu par l'Esprit, devient la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, à laquelle s'attache ce titre d'épouse, de femme de l'agneau. Ainsi seront manifestées ses perfections éternelles, fruits du travail et de l'amour de Christ, aux yeux de la terre millénaire, puis des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Apocalypse 21, versets 2 à 6 et 9 à 27.
Et je vis la sainte cité, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et jouis une grande voix venant du ciel, disant, « Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l'eau de la vie. » Et l'un des sept ange qui avait eu les sept coupes pleines des sept dernières plaies, vint et me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité, Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elle, qui sont ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes, et au nord, 3 portes, et au midi, 3 portes, et à l'occident, 3 portes. Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, pour mesurer la cité et ses portes et sa muraille. Et la cité est bâtie en carré, et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Et il mesura la cité avec le roseau jusqu'à 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales. Et il mesura sa muraille 144 coudées, mesure d'homme, c'est-à-dire d'ange. Et sa muraille était bâtie de jaspe, et la cité était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la cité étaient ornés de toutes pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de Sardonyx, le sixième de Sardius, le septième de Chrysolite, le huitième de Béryl, le neuvième de Topaze, le dixième de Chrysoprase, le onzième d'Hyacinthe, le douzième d'Améthyste. Et les douze portes étaient douze perles. Chacune des portes était d'une seule perle, et la rue de la cité était d'or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, et l'Agneau en sont le temple. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'Agneau est sa lampe. Et les nations marcheront par sa lumière. Et les rois de la terre lui apporteront leur gloire, et ses portes ne seront point fermées de jour, car il n'y aura pas de nuit là, et on lui apportera la gloire et l'honneur des nations, et il n'y entrera aucune chose souillée, ni ce qui fait une abomination et un mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.
En attendant, au milieu du monde actuel qui a rejeté et rejette Christ, elle ne peut être qu'une étrangère. La nouvelle création à laquelle elle appartient est une anomalie dans l'ancienne. L'Église n'est pas, contrairement à ce que certains semblent estimer, une partie, la plus noble, pense-t-il, de ce monde. Elle en a été tirée. Et elle se trouve normalement opposée à lui par son caractère céleste, comme l'était Christ quand il cheminait ici-bas. Elle n'est pas, en définitive, l'Église des hommes, mais elle est l'Assemblée de Dieu. Pourquoi l'Église ici-bas? Nous sommes amenés à nous demander pourquoi elle est ainsi laissée ici-bas, et quelle fonction elle est appelée à y exercer. On pourrait dire d'un mot que l'Assemblée est placée sur la terre pour glorifier Dieu en glorifiant Christ. Telle est la vocation individuelle du chrétien, temple du Saint-Esprit, telle est celle de l'Église, habitation de Dieu par l'Esprit. Elle est là, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée, Éphésiens 3, verset 10. Elle anticipe l'éternité. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui gloire dans l'Assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Verset 20. Les attributions de l'Assemblée en vue de répondre à ce grand objet sont multiples. Premièrement, d'abord manifester cette unité d'essence divine sans équivalent dans les choses humaines. L'existence même de l'Église doit ainsi montrer la grâce et la puissance de Dieu. Le Seigneur Jésus avait en vue un tel témoignage lorsque, dans sa prière de Jean 17, il demandait « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ». Afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m'as envoyé, verset 21. Telle est la haute efficacité que le Seigneur attachait à la manifestation de cette unité par les siens. Le monde croirait. Quand il la manifestera lui-même en gloire, le monde la connaîtra. Elle sera rendue évidente, verset 23. Même pour ses ennemis.
Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Mais en attendant qu'ils nous consomment en un, ils nous mettent au milieu du monde, pour que celui-ci voie la vie nouvelle dans sa preuve la plus évidente, savoir l'unité de la famille de Dieu, qu'il en recherche la source et qu'il croit. Il n'y a pas de plus puissante évangélisation. Mais ce n'est pas seulement l'unité de la famille qui est appelée à paraître, mais bien l'unité du corps. Elle se montre quand les croyants gardent l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, verset 3.
Vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
Tel est le rôle que tous ils ont à tenir, parce que tous ont été appelés du même appel, font partie du même corps, sont animés du même esprit. Ce témoignage rendu dans l'amour, Éphésiens 4, verset 2, ne peut l'être aussi que dans la sainte séparation du mal.
Éphésiens 4, verset 2, vous avez été appelés avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour.
Cette sainteté pratique est requise de tout ce qui porte le nom de Dieu. Soyez saints, car moi je suis saint. Elle est figurée à propos de l'assemblée par la pâte sans levain de 1 Corinthiens 5, verset 7.
Ôtez le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié.
Deuxièmement, témoin de la puissance de la grâce de Dieu pour unir dans la sainteté, l'assemblée est ici-bas la dépositaire de la vérité, l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité, 1 Timothée 3, verset 15. Elle est établie telle. Elle n'est pas la source de la vérité ne procède pas de l'Église. La parole de Dieu est la vérité, Jésus est la vérité, le Saint-Esprit est la vérité, mais non l'Assemblée. Elle l'a reçue. Il lui appartient de la rendre publique et de la maintenir intacte. Dieu habite dans l'Assemblée qui est sa maison, mais la vérité doit être vue en elle, portée par elle comme par une colonne, sans qu'elle la laisse affaiblir, altérer ou oublier. Troisièmement, la maison de Dieu est une maison de prière. Ainsi en est-il pour le peuple terrestre, ainsi pour l'assemblée de Dieu. Matthieu 18, verset 19 l'établit, en donnant aux deux ou trois assemblées au nom de Jésus l'assurance d'être exaucées parce que lui-même est là au milieu d'eux.
Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux.
Quatrièmement, l'assemblée, sainte sacrificature, a le service de la louange. Elle adore son Seigneur comme il convient à l'épouse du roi de gloire, psaume 45. Mais lui-même ressuscité chante au milieu d'elle les louanges du Père. Par lui, elle loue Dieu le Père, elle rend culte. À lui gloire dans l'assemblée, dans le Christ Jésus. Les relations individuelles de l'âme avec Dieu pour le célébrer et lui rendre grâce, si précieuses soient-elles, s'effacent en s'y fondant devant ce service collectif sans prix. Au centre de ce culte se place le souvenir de la mort du Seigneur. C'est dans l'assemblée qu'est dressée la table du Seigneur, où elle célèbre la scène, 1 Corinthiens 10, versets 16 à 21.
La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul corps. Car nous participons tous à un seul et même pain. Considérez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les sacrifices, n'ont-ils pas communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que ce qui est sacrifié à une idole soit quelque chose? Ou qu'une idole soit quelque chose? Non. Mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons.
1 Corinthiens 11, versets 20 à 34.
Quand donc vous vous réunissez ensemble, ce n'est pas manger la scène dominicale, car lorsqu'on mange, chacun prend par avance son propre souper, et l'un a faim et l'autre s'enivre. N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire, ou méprisez-vous l'assemblée de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas, car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez, en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Mais que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous l'un l'autre. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour être jugés. Or, quant aux autres points, je les réglerai quand j'irai vers vous. »
Elle parle de son œuvre, proclame la valeur de celle-ci pour sauver et pour rassembler. Elle le fait dans le souvenir, rendu visible dans un mémorial ordonné par lui-même, du Seigneur donnant sa vie. « Faites ceci en mémoire de moi. » Et cela encore est en témoignage, la mort du Seigneur est annoncée. Cinquièmement, tournée vers le passé pour commémorer le sacrifice unique, elle se tourne vers l'avenir pour attendre le retour du Seigneur. À elle, il appartient de dire avec amour, « Viens, Seigneur Jésus, par l'Esprit qui est au milieu d'elle et avec elle. » Apocalypse 22. Voilà quelques-unes des précieuses fonctions pour l'accomplissement desquelles l'Assemblée est ici-bas. Il y en aurait d'autres sans doute. Il faudrait parler de tout ce que les âmes y peuvent trouver d'encouragement et de réconfort dans une communion fraternelle qui a sa source dans l'amour du Seigneur pour les siens. Elle est le refuge de quiconque, lassé de ce monde, vient chercher la paix auprès du Sauveur. Elle reconnaît, approuve, soutient les ouvriers que le Seigneur envoie. Toutes les épîtres de Paul nous montrent à quel point ce puissant serviteur de Dieu, qui ne dépendait de personne, comptait sur le soutien spirituel de l'Assemblée en tout lieu, et combien il était reconnaissant pour les soins matériels dont on l'entourait. Avec quels accents il se réjouit de la part que les Philippiens prenaient à l'Évangile, ou reconnaît comment la conduite des Thessaloniciens renforçait en tout lieu sa propre prédication. Excellence de ses prérogatives. Mais quand nous parlons de fonctions et de devoirs qui en découlent, c'est privilège qu'il faudrait dire. Les saints de l'Ancien Testament ne les connaissaient pas, parce qu'il fallait pour que ce trésor s'ouvrît que Christ eût été glorifié. Ils n'avaient en partage ni le seul corps, ni le seul esprit, ni la seule espérance de l'appel. Maintenant, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. L'Église est établie, afin que, jouissant de ses bénédictions célestes, elle en apporte ici-bas le rayonnement et le parfum, dans un témoignage collectif qui honore son chef connu et aimé, auteur du salut et seul centre de rassemblement de tous. Ressources et moyens. Pour exercer réellement ses prérogatives et rendre ce témoignage, l'Église, ici-bas, est pourvue de toutes ressources, comme le croyant n'est pas laissé à lui-même par la grâce de Dieu. Ses ressources sont infinies et inépuisable. C'est toute la grâce variée de Dieu. Reconnaître effectivement l'autorité du Seigneur, laisser agir librement le Saint-Esprit, dont la mission est de glorifier Jésus exalté, obéir à la parole, voilà qui devrait suffire en tout temps. Christ glorifié donne en grâce tout ce qui est nécessaire, Éphésiens 4, verset 7, tous les ministères voulus pour recruter, pour nourrir l'assemblée, Éphésiens 4, verset 8 à 16.
Éphésiens 4, verset 7, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Éphésiens 4, verset 8 à 16, c'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Or, qu'il soit monté, qu'est-ce, sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer, mais que, étant vrais dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement produit, selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour.
L'Esprit distribue avec sagesse la diversité des services, 1 Corinthiens 12. Il en aura été ainsi pendant toute l'histoire de l'Église. Christ montrera à sa gloire combien il aura été fidèle en s'occupant de celle qu'il a aimée. En face de l'action divine se développent, hélas, toutes les offensives de Satan et du monde pour disperser, détruire et corrompre. C'est pour le chrétien une lutte constante. L'Assemblée dispose pour se préserver d'une arme particulière. Une autorité est placée en elle du fait de la présence du Seigneur au milieu d'elle. C'est ce que nous trouvons dès Matthieu 18, versets 17 à 20, en vue d'assurer l'ordre et la paix parmi les frères, les enfants de Dieu.
S'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'Assemblée. Et s'il ne veut pas écouter l'Assemblée non plus, qu'il te soit comme un homme des nations et comme un publicain. En vérité, je vous dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
La présence du Seigneur au milieu des siens est affirmée là en rapport avec la prière des deux ou trois. Mais cette prière elle-même est en rapport avec le pouvoir de lier et délier en matière de relations fraternelles. Le but est évidemment que des frères habitent unis ensemble, ce qui est bon et agréable, une source de bénédiction et un témoignage rendu à l'unité de la famille de Dieu. Le pouvoir conféré à l'Assemblée est présenté de façon plus ample et plus solennelle en 1 Corinthiens 5. Il s'agit d'ôter le vieux levain, le levain du péché, pour être une nouvelle pâte. Autrement dit, l'Assemblée, tenue de se purifier du mal, doit exercer une discipline allant jusqu'à l'exclusion du méchant. Et comme en Matthieu 18, l'autorité mise dans l'Assemblée se lie de la façon la plus exclusive à la présence du Seigneur, verset 4, et à la puissance de son nom.
1 Corinthiens 5, verset 4, « Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. »
Elle est exercée de la part du Seigneur au nom du Seigneur, non point à la manière d'un tribunal humain, mais en vue du bien de tous et particulièrement du défaillant. De Corinthiens 2, versets 5 à 9.
Mais si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé, mais, en quelque sorte, afin que je ne vous surcharge pas, c'est vous tous. Il suffit pour un tel homme de cette punition qui lui a été infligée par le grand nombre, de sorte qu'au contraire vous devriez plutôt pardonner et consoler, de peur qu'un tel homme ne soit accablé par une tristesse excessive. C'est pourquoi je vous exhorte à ratifier envers lui votre amour, car c'est aussi pour cela que je vous ai écrit, afin que je connaisse, à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses.
Responsabilité. La grandeur de ses privilèges, la réalité de ses ressources, dépassant ce que les témoins plus anciens possédaient, font peser sur l'Église une responsabilité plus grande qu'aucune autre. Elle n'a pas pu répondre à ce qui lui était demandé. Elle n'a pas su employer ses ressources. Elle a prouvé une fois de plus que l'homme n'est pas capable de garder intact ce que Dieu lui confie. Le dépôt que l'Église avait en main était plus précieux qu'aucun autre, et elle l'a laissé glisser à terre. Il s'agissait du nom de Christ glorifié. Et sans doute, il en a été ainsi pour qu'à la fin toute la gloire soit rendue à Dieu qui, malgré notre infidélité, accomplira ses desseins par Christ, en qui seul aura été trouvé le bon plaisir de Dieu dans les hommes. Mais tant que l'histoire de l'Église sur la terre n'est pas terminée, quiconque a les vrais intérêts de Christ à cœur doit rechercher où est, pour lui, le chemin de la fidélité.